Alors pourquoi je me suis intéressé à cette question, en fait, il est clair que je préférerais de très loin vivre dans un monde où nous n'aurions pas à nous occuper d'une question aussi désolante que le transhumanisme. Mais à partir du moment où ceux qui se disent transhumanistes entendent en finir avec l'humanité telle que nous la connaissons, ou la réduire à une sous-espèce dominée, les humains qui souhaitent que l'humanité continue sont obligés de prendre en compte l'existence de ceux qui veulent leur faire la peau. Si vous voyez cette expression. Bon, très 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 brièvement, le programme transhumaniste, en quoi consiste-t-il? Il s'agit d'utiliser l'éventail entier des technologies et de miser sur leur coalescence pour non plus seulement se contenter d'agir sur le monde extérieur comme on le fait depuis un certain nombre de siècles, mais aussi pour retourner cette technologie sur notre propre corps et modifier notre propre constitution. Et les effets attendus sont si importants, renforcement des capacités déjà existantes, physiques et intellectuelles, apparition de nouvelles facultés, effacement des infirmités, du vieillissement, de la mort, que des humains qui seraient ainsi améliorés, augmentés, comme on dit, ne seraient plus précisément des humains, mais des êtres d'un autre ordre, des post-humains. Et dans cette perspective, le trans de transhumanisme a deux sens. Il renvoie à la fois au statut de l'humanité comme simple état transitoire à traverser vers la post-humanité, et également à la transcendance des post-humains par rapport à nous autres humains standards qui devrions œuvrer à leur advenu. Alors, il faut d'emblée dire une chose, c'est que les promesses les plus spectaculaires du transhumanisme, l'immortalité, la symbiose entre l'homme et la machine, le téléchargement du psychisme sur ordinateur et ce genre de choses, ne sont absolument pas sérieuses. C'est n'importe quoi. Alors, pourquoi de telles promesses sont-elles proférées et complaisamment relayées par les grands médias? Alors, pour le comprendre, je crois qu'il faut tenir compte de la situation historique particulière dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez que certains ont parlé dans les années 1970 d'un changement d'époque. Nous aurions quitté la modernité pour entrer dans une nouvelle ère qui serait la post-modernité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce passage de la modernité à la postmodernité? Pour fixer les idées, je crois qu'il est bon de se reporter à un livre de Jean-François Lyotard qui est paru en 1979 et qui s'appelle précisément « La condition postmoderne ». Alors, selon Lyotard, l'élément le plus décisif dans le passage de la modernité à la postmodernité est un changement dans le rapport à la science. Alors, schématiquement, selon Lyotard, deux grands récits ont porté le développement de la science au cours des derniers siècles. Le premier grand récit était marié à des aspirations politiques, c'est le récit de l'émancipation. La science, en dissipant les superstitions, en dévoilant le monde dans sa vérité, doit permettre aux hommes de se libérer de leurs anciennes tutelles, de prendre leur destin en main et d'accéder à l'autonomie, tout en soulageant aussi, grâce à la technique, leur peine. On pourrait dire que ça, c'est le grand récit plutôt d'obédience française. Et puis, il y a un second grand récit qui a également porté le développement scientifique au cours des derniers siècles, on pourrait dire schématiquement qui est plutôt d'obédience allemande, et qui a présidé à la création et à l'essor absolument extraordinaire de l'université allemande au XIXe siècle, c'est le récit spéculatif, la science conçue comme accomplissement de la vie de l'esprit, réalisation de l'esprit universel. Alors il faut reconnaître que le XXe siècle a été extrêmement cruel avec ces deux grands récits, puisqu'il a montré que la science pouvait aussi bien servir à l'asservissement de l'homme qu'à son émancipation, et n'offrait aucune garantie contre la nuit de l'esprit. Et donc le lien automatique entre le progrès scientifique et le progrès humain s'est défait. Et prenant acte de l'épuisement des deux grands récits qui accompagnaient et soutenaient la science moderne, Lyotard a décrit le passage à un nouveau régime, post-moderne du savoir scientifique, au sein duquel, désormais, ce sont les critères d'efficacité qui sont devenus déterminants, au point de prendre le pas sur toutes les autres considérations. On peut dire une manière très simple de le formuler aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes passés d'une perspective de progrès à une apologie de l'innovation, sans que l'on sache si celle-ci constitue ou non un progrès. En fait, aujourd'hui, il faut innover, mais plus personne, finalement, ne se risque vraiment à dire que le monde qui résultera de toutes ces innovations sera meilleur, en fait, parce que précisément, ce serait ça le passage de la modernité à la postmodernité, c'est une érosion de la croyance en un progrès qui serait automatiquement apporté par les progrès des sciences et des techniques. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui dans cette injonction permanente à l'innovation. Moi qui suis au CNRS, par exemple, le nouveau directeur du CNRS, quand il a pris sa fonction, a renvoyé à tous les agents du CNRS une lettre, et en une page et demie, il y avait 4 fois « innovation de rupture ». Donc oui, c'est tout à fait clair. En fait, pourquoi on est au CNRS ? Pour faire des innovations de rupture. Bon, alors cela étant, des fractions de plus en plus importantes de la population se mettent à douter. Vaut-il bien la peine de s'épuiser à suivre le rythme endiablé de l'innovation si celle-ci ne constitue pas un véritable progrès ? Et alors, ce genre de perplexité est mauvais, qu'on conçoit bien, pour la consommation, pour la croissance et pour les affaires. Et là, on saisit justement le rôle que les promesses les plus délirantes du transhumanisme sont appelées à jouer. Il s'agit d'arracher l'adhésion de populations de plus en plus dubitatives à la poursuite de la dynamique, d'arracher à ces populations dubitatives leur adhésion à la continuation de cette dynamique d'artificialisation permanente et de technologisation de l'existence. La perte de confiance dans le progrès doit être compensée par une inflation de ce que l'innovation est censée apporter, à savoir maintenant la réalisation des fantasmes de toute puissance de l'individu, puisque c'est essentiellement de cela qu'il est question avec le transhumanisme. Alors, qu'est-ce qui, je suis obligé d'aller très rapidement, qu'est-ce qui nous rend si vulnérables à l'idéologie transhumaniste, en plus de la stimulation de ces fantasmes de toute puissance ? Je distingue deux grands facteurs de vulnérabilité qui expliquent le succès relatif au moins du transhumanisme dans l'espace public. C'est d'une part la situation diminuée de l'individu contemporain qui lui rend les perspectives d'augmentation séduisantes. Pourquoi l'être humain contemporain rêve d'être augmenté ? C'est parce qu'en fait il a été préalablement diminué. Et puis d'autre part, c'est un cadre de pensée hérité de la modernité, dont le transhumanisme est à sa manière un aboutissement. Alors je vais, dans le temps qui suit, détailler ces deux points. Surtout le deuxième d'ailleurs, mais j'ai quand même un mot à dire sur le premier. Le premier, j'ai dit que les augmentations pouvaient séduire aujourd'hui dans la mesure où ces promesses étaient adressées à des hommes qui se sentaient diminués. Alors pourquoi sommes-nous aujourd'hui diminués ? Eh bien c'est que, en fait, à présent, à peu près tout le monde doit s'en remettre dans tous les aspects de son existence à une gigantesque machinerie matérielle et sociale. J'ai trouvé un passage chez Ernst Unger qui me semble être très frappant à ce propos. Ernst Unger décrit dans un de ses livres qui s'appelle « Le cœur aventureux » le spectacle offert par la resserre à provision d'une ferme norvégienne dans laquelle il avait pu entrer dans les années 1920. Je cite donc Ernst Unger. « Le fermier, me voyant contempler les tonneaux pleins de farine et de biscuits, les jambons, les saucisses et les poissons secs, me dit « mod for et or », c'est-à-dire « du manger pour un an ». Et Ernst Unger poursuit « Dans les grandes masses qui peuplent nos villes, les plus riches même ne pourraient en dire autant pour leur propre compte. Tous, tant qu'ils sont, un fil à peine les sépare de la détresse. » Fin de citation. À Paris, si la noria des camions cesse d'arriver à Rungis, en 4 jours, c'est la famine. Et qu'on soit riche ou pauvre, de ce point de vue-là, ça ne fera aucune différence. Et donc, il arrive que les habitants... Et donc, vous voyez qu'en fait, dans notre survie même la plus immédiate, nous sommes absolument dépendants, en fait, d'une gigantesque logistique qui, si elle s'arrêtait à un moment donné de tourner, nous placerait immédiatement dans des situations de très grande détresse. Il y a une chose, par exemple, je vous disais ça, c'est un truc qui est curieux entre la différence entre mai 68 et puis le mouvement des Gilets jaunes. Bon, il y a évidemment des tas de différences, mais mai 68, il y a eu une grève générale, et en fait, la France a été quand même grandement paralysée à peu près pendant un mois. En fait, les Gilets jaunes, c'est assez bizarre parce qu'on parle de guerre civile, mais c'est une guerre civile qui n'a lieu que le samedi. Donc pendant 6 jours sur 7, on fait comme d'habitude, et puis un jour par semaine, on fait la guerre civile. Bon, c'est quand même bizarre. Mais en réalité, c'est qu'une grève telle qu'il y avait en mai 68, une grève générale, en fait, est impossible aujourd'hui parce que, en fait, nous sommes tellement dépendants aujourd'hui pour notre survie la plus immédiate du fonctionnement de toute la grande machinerie qu'on ne peut plus se le permettre. C'est-à-dire que les gens qui feraient la grève, en fait, ils se retrouveraient eux-mêmes très vite dans une situation de très grande... ils seraient rattrapés très vite par des nécessités inévitables. Donc, en fait, il arrive quand même aujourd'hui que des habitants des grandes métropoles mesurent la précarité de leur situation et prennent conscience dans un vertige de la contradiction entre la liberté dont nous nous targuons et notre état de totale dépendance à l'égard du système qui nous entretient. Alors que font certains quand ils sont accablés par ce contraste ? Ils s'inscrivent à des stages survie, mais à supposer même qu'ainsi instruits, ils redeviennent capables de pourvoir à leurs besoins les plus élémentaires en sachant détecter les racines qui sont bonnes à manger, ils seraient loin d'avoir retrouvé l'autonomie de leurs ancêtres qui, eux, ne survivaient pas, mais vivaient. Vous voyez là la dialectique, en fait, Marcel Gauchet, il répète tout le temps ça, la dynamique de la modernité, c'est le passage de l'hétéronomie à l'autonomie. Dans l'hétéronomie, les hommes reçoivent les règles, leurs lois, etc. On a l'impression que c'est comme ça, de l'extérieur. Et puis la modernité, c'est le passage de l'humanité à l'âge adulte, à l'autonomie. Ce sont les hommes qui se reconnaissent comme les créateurs de leur organisation. Et alors vous voyez qu'en fait, il y a une forme d'autonomie collective, mais qui a été vécue aussi comme une autonomie individuelle. C'était aussi l'émancipation des individus. Mais en fait, on s'aperçoit que ce mouvement de la modernité, qu'est-ce qu'il a produit ? Il a produit aussi un système dans lequel chaque individu, en réalité, est beaucoup plus dépendant qu'il ne pouvait l'être par le passé du fonctionnement général de la machine. Un paysan du Moyen-Âge, en fait, il était d'une certaine manière beaucoup plus autonome que ne l'est un citadin d'aujourd'hui, parce que, par exemple, un citadin d'aujourd'hui, s'il n'y a plus de courant qui arrive dans les prises, voilà, c'est fini, quoi. Il ne peut strictement plus rien. Donc, la vérité, c'est que jamais les êtres humains réduits à leur seule force n'ont été aussi impuissants, aussi impotents. On est aujourd'hui plongés tous, autant que nous sommes, dans un état de très, très grande dépendance qui... nous met dans une situation, d'une certaine manière, de diminution. Et la dépendance est telle aujourd'hui que même quand on rêve de remédier au malaise grandissant qu'engendre cette situation de dépendance, les êtres hyper dépendants à la technologie que nous sommes devenus ont tendance à n'imaginer de remède que technologique. Et en fait, vous savez, on cite souvent, de manière d'ailleurs un peu fautive, mais enfin peu importe, l'idée est là, cette phrase de Bossuet qui dit que Dieu se rit des prières qu'on lui adresse pour écarter des maux dont on continue de chérir les causes. Mais là, en fait, c'est même pas que on veut se délivrer de maux dont on continue de chérir les causes, c'est que on ne imagine de remède à ces maux qu'en renchérissant sur les causes mêmes qui produisent ces mots. C'est même pas qu'on conserve les causes, c'est qu'au contraire, on cherche le salut dans l'intensification même de ce qui produit notre situation de malaise. Alors, le transhumanisme promet à l'individu la toute-puissance, mais il lui promet à travers des implants technologiques. Et donc, en fait, ce qui est à l'horizon, ce n'est pas à la place de cette autonomie promise, c'est en fait plutôt une radicalisation de la dépendance, le maintien à vie dans un état de totale immaturité, la condamnation à passer toute une vie au sein, si on veut, moyennant le passage des tétons aux connexions. En fait, c'est la dégénérescence de... Enfin, quand Aristote caractérisait l'être humain comme le zoon politikon, hein, le vivant politique, mais en fait, avec le transhumanisme, en fait, ce qui nous est promis, c'est le statut d'animal monitoré. Bon. J'en viens maintenant. Donc, en fait, le premier point, je disais, qui nous rend vulnérables au transhumanisme, c'est qu'en fait, nous avons passé un seuil de dépendance où, finalement, quand nous cherchons à remédier au malaise que crée en nous cette dépendance, en fait, on est tellement formaté par la technologie qu'on ne cherche même une amélioration de notre situation que du côté de la technologie, ce qui évidemment est un cercle vicieux, mais qui continue en attendant de faire tourner la machine. Alors le second point, je disais que ce qui est aussi sous-jacent à la réception dans l'espace public dont bénéficie le transhumanisme, c'est un certain cadre de pensée hérité de la modernité. C'est le point qui me paraît intellectuellement le plus intéressant, c'est celui aussi que j'ai le moins le loisir d'aborder en général quand je suis amené à parler du transhumanisme, mais puisque ici j'ai quand même la chance immense de parler devant des normaliens, je ne vais pas me priver. Alors, le transhumanisme, pour le dire en un mot, en tant que tel, est récent, mais il est aussi un prolongement naturel, si on peut dire, d'une logique de pensée qui est à l'œuvre depuis plusieurs siècles. C'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête comme ça d'un coup. Bon, évidemment, pour que le transhumanisme puisse faire floresse, il faut qu'un certain nombre de conditions technologiques soient réunies, et c'est aujourd'hui qu'elles semblent plus ou moins l'être. Mais le cadre qui était propre à l'accueillir, lui, en fait, il est beaucoup plus ancien. Alors, pour situer ce cadre, il faut commencer par réfléchir sur la science qui est impliquée au premier chef dans le transhumanisme, puisque c'est d'elle et des innovations qu'elle nourrit que le projet tire sa substance. Alors, la première chose à dire, sans doute, c'est que quand on parle de la science, l'article défini est hautement problématique. D'une part, parce qu'il n'y a pas la science, mais il y a des sciences qui sont distinctes les unes des autres. Et puis, d'autre part, parce que les sciences modernes sont bien autre chose que la simple continuation des sciences anciennes, dont elles ne se distingueraient que par un degré supérieur d'avancement. Science ancienne et science moderne cherchent certes l'une et l'autre à connaître le monde, mais les types de connaissances visées sont si différents que science ancienne et science moderne s'opposent autant, voire davantage, qu'elles ne se ressemblent. Alors pour s'en rendre compte, eh bien, on peut s'attarder un instant sur le mot « physique ». Alors il est dérivé du verbe grec « fuo », infinitif « fuyène », qui signifiait transitivement « faire naître »,« faire croître » et intransitivement « naître »,« croître »,« pousser ». Alors on traduit fusis par nature, ce qui est tout à fait justifié, car en latin, natura dérive du verbe nascor, qui veut dire naître. Nature et nativité ont la même racine. Alors pour les Grecs, vous savez que les Grecs n'avaient pas de mot correspondant à ce que le mot que nous employons, le mot chose. En fait, chose, en français, on peut l'employer pour désigner tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas une spécificité du français, c'est la même chose dans toutes les langues européennes modernes. Vous avez thing en anglais, ding en allemand, etc. Bon. Les Grecs n'avaient pas de mots unifiants de ce type. Il y avait différentes catégories qui devaient chacun être nommées par un mot différent. Et en particulier, dans ces catégories, il y avait une catégorie, c'était les physica, C'était, on pourrait dire, nous, justement, les choses physiques. Et qu'est-ce que c'était que les choses physiques? C'était les choses dans la mesure où celles-ci se produisent d'elles-mêmes. Par opposition en particulier à celles qui étaient fabriquées, les poioumena, du verbe poyen, fabriquer, exécuter, confectionner, produire. Et Aristote écrit dans sa Physique, c'est tout début du livre 2 de la Physique d'Aristote, je le cite, « Parmi les étangs, les uns sont par nature, phuseï en grec, les autres par d'autres causes. Sont par nature les animaux et leurs parties, les plantes et les corps simples comme la terre, le feu, l'air et l'eau. Ce sont ceux-là et ceux de cette sorte que nous disons être par nature. » Alors vous voyez que pour Aristote, qu'est-ce que c'est que les physica, les choses physiques, les animaux, les plantes, et puis les éléments terre, air, eau et feu. Mais on constate que dans cette présentation des objets de la physique par Aristote, c'est vraiment un point essentiel, le vivant vient en premier, et la matière inanimée seulement ensuite. Et donc c'est à partir du vivant que l'ensemble de la nature se trouve pensé. Vous voyez, de toute façon, pour les Grecs, dire que la physique, ça s'occupe en premier lieu du vivant, c'est contenu même dans le terme. Puisque je vous ai dit que fusis, ça venait du verbe fuo, fuyen, qui veut dire naître, croître. Donc en fait, c'est tout à fait clair que la science grecque, qui a pour nom physique, elle va d'abord s'intéresser au monde en tant que déploiement du vivant. Alors, qu'en est-il pour la science moderne? Bon, on connaît l'affirmation de Galilée qui dit que l'univers est écrit en caractères mathématiques. Dès lors, la science inaugurée par Galilée consiste à dégager la mathématicité dont l'univers est réputé de part en part. On observe le monde, on a le monde des phénomènes. Et quel est le but de la science moderne telle que Galilée la comprend? C'est de mettre au jour les structures mathématiques sous-jacentes aux phénomènes. Donc la physique moderne, elle est en premier lieu déterminée par ce qu'elle doit obtenir, c'est-à-dire des structures mathématiques, et également par les méthodes à suivre pour y parvenir. Donc, prenant acte de ce virage qui a été consacré au XVIIe siècle par la science de Newton, Kant, à la fin du XVIIIe siècle, a indexé le caractère scientifique d'une connaissance de la nature à son degré de mathématicité. Je cite Kant, « J'affirme que dans toute théorie particulière de la nature, on ne peut trouver de science à proprement parler que dans l'exacte mesure où il peut s'y trouver de la mathématique. » Fin de citation. Bon, voilà. Ça, c'est au moins c'est clair et net. Donc, vous voyez que dans ces conditions, l'objet de la physique n'est plus, comme chez Aristote, l'ensemble de ce qui se donne par soi-même, à commencer évidemment par le vivant, mais l'ensemble de ce qui se prête à la mathématisation. Alors, évidemment, selon l'idéal universaliste de la science, les deux ensembles devraient coïncider, puisque à partir du moment où Galilée dit que l'univers est écrit en caractère mathématique, eh bien, en fait, tout, normalement, doit pouvoir être déchiffré par les mathématiques, et donc la physique mathématique telle que Galilée la conçoit, elle doit pouvoir arriver à un moment donné à tout englober. Mais qu'est-ce qui fait que quelque chose va vraiment être reconnu comme du domaine de la physique? C'est quand on a réussi à le mathématiser. Et en pratique, l'incapacité à tout appréhender mathématiquement va justifier l'existence, à côté de la physique, d'autres sciences de la nature qui vont être la chimie et la biologie. Et pourquoi apparaissent à côté de la physique? Pour Aristote, la science de la physis, ben c'était la physique. Bon, voilà, il n'y avait qu'une... Enfin, vous voyez. Pourquoi, à l'époque moderne, à côté de la physique, vont apparaître d'autres sciences, en particulier la chimie et la biologie? C'est parce que la nouvelle physique, comme elle est identifiée à un idéal de mathématicité, bon, il y a des endroits où ça va plus ou moins bien, ça a pas mal marché, et en particulier l'inanimé, On va faire, bon, ça va commencer par l'astronomie, puis on va voir l'optique, l'électricité, le magnétisme, etc. Bon, ça marche assez bien, on a des équations, équations de Newton, équations de Maxwell, etc. Et puis, il y a d'autres endroits, bah, on n'y arrive pas. Mais malgré tout, ça existe. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on va faire d'autres... On va être obligé, à côté de la physique, de reconnaître l'existence d'autres sciences. Alors, la chimie, c'est un endroit où, bon, on reste dans l'inanimé, et on arrive quand même à trouver des bonnes régularités, mais on n'arrive pas à la même mathématicité qu'en physique. Et puis, la biologie, là, quand on arrive avec le vivant, on n'arrive pas, là, justement, à ramener le vivant à du mathématique, et donc... Comme on n'arrive pas à le physicaliser à partir du moment où, comme disait Kant, pour que ce soit vraiment de la physique, il faut qu'il y ait des mathématiques, eh bien, en fait, on est obligé de créer une science, au moins, qui a au moins une existence transitoire, qui est la biologie, qui va s'occuper du vivant. Alors, reconnaître... Je rappelle la phrase de Kant que j'ai déjà signée et j'ai déjà citée. J'affirme que dans toute théorie particulière de la nature, on ne peut trouver de science à proprement parler que dans l'exacte mesure où il peut s'y trouver de la mathématique. Donc ça veut dire, si on prend ça au sérieux, qu'une vraie science du vivant, ça devrait être une science qui arrive à mathématiser le vivant. Bon, est-ce qu'une telle ambition est raisonnable ou pas ? Et là, c'est très intéressant de s'apercevoir que Kant lui-même pense que ça n'est pas raisonnable, que ça ne pourra jamais se produire. Alors, pour comprendre le raisonnement de Kant, pour suivre son raisonnement, il est nécessaire, je suis désolé de le faire, mais voilà, si je ne le fais pas ici, je ne le ferai jamais, quoi. Donc, bon... on est obligé de rappeler la distinction que Kant prend soin d'opérer entre deux types de jugements. Alors, il faut d'abord dire que Kant définit la faculté de juger en général comme la faculté qui consiste à penser le particulier comme compris sous l'universel. C'est ramener le particulier à de l'universel. Alors, deux cas peuvent se présenter. Le premier est celui où l'universel, c'est-à-dire la règle, le principe, la loi, est connu. Et alors il s'agit de rapporter le particulier à cet universel selon juste un jugement qui est dit déterminant. C'est ce type de jugement qui s'exerce à partir de la science constituée, où le particulier va se trouver déterminé par la loi universelle dont il relève. Par exemple, la loi de gravitation universelle de Newton, une fois qu'elle est connue, elle détermine la trajectoire des planètes autour du Soleil en fonction de leur masse, de leur position et de leur vitesse à un instant donné. Donc en fait, si je vois un objet céleste, je vais pouvoir, comme je connais les lois de l'astronomie, eh bien pour déterminer sa trajectoire, justement, en fait, je vais ramener son cas particulier à l'universel de la loi de la gravitation, et je vais appliquer donc en fait ce que Kant appelle un jugement déterminant. Je connais la loi, j'applique la loi à un cas particulier. Et puis le second cas, c'est quand j'ai affaire à un cas particulier, mais sans que je connaisse de règles, de principes, de lois universelles qui pourraient en rendre compte. Et alors, quelle va être la tâche du jugement dans ce cas-là ? Ce n'est pas d'appliquer au cas particulier l'universel, puisque l'universel, je ne le connais pas. Ça va être, à partir d'un certain nombre de cas particuliers, de mettre au jour la loi universelle dont il relève, mais que je ne connais pas encore. Et comment faire pour trouver cette loi à partir d'un certain nombre de cas particuliers ? En fait, ce que dit Kant, c'est que je vais être obligé de considérer qu'en réalité, ces cas particuliers, ils répondent tous à une loi qui agit par rapport à eux comme une cause par rapport à un effet. Je suis obligé, pour chercher la loi, de faire comme si la loi était la cause des cas particuliers que j'observe. Et c'est pour ça qu'il va appeler ça le jugement téléologique réfléchissant. C'est du jargon philosophique ancien, hein, c'est comme ça, je peux rien. Téléologique, télos en grec, la finalité, le but, donc téléologique, ça veut dire qui est orienté vers une finalité. Et en fait, pourquoi j'ai besoin de téléologie, comme je vous le dis, c'est que quand, par exemple, si vous regardez le ciel, Bon, puis vous voyez des planètes, les anciens, aujourd'hui, avec dans les grandes villes, on ne voit plus rien, justement, avec l'éclairage au sodium, mais les anciens qui n'avaient pas ces éclairages et qui n'avaient pas la télé, etc., ils passaient énormément de temps à regarder le ciel étoilé. Bon, ils avaient bien repéré le mouvement des planètes. Mais vous voyez que si vous voulez trouver une loi générale qui va rendre compte de ces mouvements des planètes, c'est pas simplement en regardant le ciel comme ça, en regardant le mouvement des planètes, que vous allez trouver une loi. En fait, si vous voulez vous donner une chance de trouver une loi, c'est que vous êtes obligé de postuler l'existence de cette loi et de considérer que tous les mouvements que vous observez, en fait, sont induits par cette loi. Et que la loi, donc, est la cause des mouvement que vous observez. Et donc c'est pour ça que Kant parle de jugement téléologique, c'est-à-dire que pour avoir une chance de trouver la loi, il faut imaginer que la loi est la cause des phénomènes que j'observe. Et réfléchissant, bah parce que, en fait, si vous voulez, c'est le par rapport au jugement déterminant où Genèque a appliqué la loi que je connais déjà et au cas particulier, là il faut remonter des cas particuliers vers la loi. Mais vous voyez que Newton lui-même, pour trouver la loi de la gravitation universelle, il a été obligé de passer, comme avant de connaître sa loi de la gravitation, il a été obligé de passer par le jugement téléologique réfléchissant, et une fois avec son génie qu'il a trouvé la loi, à ce moment-là il peut retourner la chose et simplement considérer les cas particuliers à partir desquels il essayait de deviner la loi. Maintenant, en fait, c'est la loi qui va s'appliquer au cas particulier. À ce moment-là, il n'y a plus que des jugements déterminants. Alors Kant se dit, est-ce que pour le vivant, on peut faire la même chose? Bon, le vivant, on ne connaît pas de loi mathématique qui en rende compte, mais est-ce qu'on peut imaginer que, finalement, par le jugement téléologique réfléchissant, on arrive à trouver des lois qui rendrait compte du vivant ensuite de manière sur le mode du jugement déterminant. Est-ce que la démarche, en fait, si vous voulez, qui a réussi pour la chute des corps sur la Terre et la trajectoire des astres dans le ciel, peut marcher pour le vivant? Eh bien, Kant répond non. Pourquoi? Il remarquait que pour les êtres organisés, il y a enchevêtrement de la causalité entre le tout et les parties. Les parties dans un organisme vivant composent le tout, mais le tout est aussi ce en quoi les parties se constituent. Ce qui fait que l'organisme est ce que Kant appelle une fin naturelle. Et donc, selon Kant, nous nous trouvons confrontés à deux maximes antinomiques. Première maxime, toute production de choses matérielles et de leurs formes doit être jugée possible d'après de simples lois mécaniques. Deuxième maxime, quelques productions de la nature matérielle, c'est-à-dire les êtres vivants, ne peuvent pas être considérées comme possibles d'après de simples lois mécaniques et ne peuvent être appréhendées que sur le mode des causes finales. Et alors ce qui est très intéressant chez Kant, c'est que cette deuxième maxime n'est pas dictée par un quelconque vitalisme. C'est-à-dire que Kant ne fait pas appel à un principe vital qui viendrait s'ajouter aux déterminations physico-chimiques. Il ne dit pas qu'à l'intérieur du vivant, il y a autre chose que du physico-chimique. En fait, il dit que, contrairement à ce qui vaut pour l'inanimé, dans notre appréhension du vivant, la cause finale n'est pas simplement un principe heuristique qui pourra être éliminé ensuite une fois qu'on aura atteint les lois, mais elle est constitutive pour nous de ce qui nous fait reconnaître du vivant. Qu'est-ce qui nous fait dire, en fait, que reconnaître un être vivant par rapport à des choses qui ne sont pas vivantes? Eh bien, c'est qu'en fait, nous reconnaissons dans le vivant une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, le vivant, il a des finalités propres. Et il y a, c'est James Lovelock, qui est quelqu'un d'assez controversé, qui est à l'origine de l'hypothèse Gaïa, mais qui faisait une remarque que j'ai trouvée formidable. Il dit, vous imaginez, en été, vous êtes sur un pont qui enjambe une rivière, et puis il y a du vent, il y a du courant dans la rivière, l'eau est agitée, ça clapote, il y a le soleil qui donne, et donc, en fait, vous avez des éclairs de lumière de partout, enfin, tout bouge, quoi. Et puis, En fait, même un petit enfant, il est accoudé à la margelle du pont et tout d'un coup, vous imaginez que l'eau est transparente, c'est pas la Seine, et à travers l'eau, vous voyez un poisson. Et immédiatement, l'enfant va dire « Ah, tiens, un poisson !» et il reconnaît le poisson en tant qu'être vivant, alors que tout bouge. L'eau bouge, il y a des éclairs de lumière de partout, il y a des bouts de bois qui suivent le courant, etc. Il y a du mouvement partout. Et là, vous voyez qu'en fait, ça n'est pas le mouvement qui va vous faire distinguer le vivant du non-vivant. C'est le fait que immédiatement l'enfant repère que le poisson, son mouvement, ça n'est pas simplement, il n'est pas simplement déterminé de l'extérieur, mais il a aussi, enfin, le poisson a un mouvement autonome. Et Lovelock dit que c'est quelque chose qu'on reconnaît immédiatement. Et il dit, si on voulait faire un logiciel qu'on placerait sur la margelle du pont pour repérer ce qui est vivant de ce qui n'est pas vivant, ce serait monstrueusement compliqué. En fait, on n'est même pas sûr qu'on y arriverait. Vous voyez ? Et en fait, ce qu'un logiciel n'arriverait pas à faire, un petit enfant, immédiatement, le fait. Et qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît du vivant par rapport à du non-vivant ? Eh bien, c'est le fait que nous-mêmes, nous sommes vivants, que donc nous sommes animés par des... Nous avons en nous des finalités, et que, en fait, dès que nous rencontrons un autre être vivant, en fait, il y a une sorte d'écho immédiat qui s'établit, parce que nous reconnaissons en lui-même aussi des finalités, de la même manière que nous sommes habités par des finalités. Il y a une phrase de Canguilhem qui est formidable, où il disait, pour... reconnaître le vivant, pour étudier le vivant, il ne faut pas seulement être intelligent, il faut aussi être bête. Et en fait, vous voyez, il jouait sur le fait bête, ce n'est pas au sens de inintelligent, c'est au sens que c'est parce que nous sommes nous-mêmes vivants que nous reconnaissons du vivant dans la, également du vivant dans la nature. Et ce que dit Kant, c'est que, précisément, à partir du moment où le vivant, pour nous, est constitutivement... C'est constitutivement des êtres qui ont une finalité propre, il est absolument hors de question de pouvoir prétendre les subsumer sous une loi mathématique qui supprimerait cette finalité, puisque, à ce moment-là, il disparaîtrait en tant qu'être vivant. En fait, on ne peut pas connaître mathématiquement le vivant, puisque en fait, les mathématiques feraient disparaître le finalisme qui est à la racine même de ce qui nous fait dire que qu'un être est vivant. Vous voyez ce que dit Kant ? Il est bien certain que nous ne pouvons pas connaître suffisamment les êtres organisés, leurs possibilités internes, d'après de simples principes mécaniques de la nature, encore bien moins nous les expliquer, et cela est si certain que l'on peut dire hardiment qu'il est absurde pour les hommes de seulement former un tel dessein ou d'espérer qu'il surgira un jour quelque Newton qui pourrait faire comprendre ne serait-ce que la production d'un brin d'herbe d'après des lois naturelles qu'aucune intention n'a ordonnées. Et donc vous voyez que Newton, il peut rendre compte du mouvement des astres dans le ciel, mais il n'y aura jamais de Newton qui pourra rendre compte mathématiquement d'un brin d'herbe. Voilà. Parce que le brin d'herbe est vivant.
C'est la faculté de juger.
Oui, critique de la faculté de juger. Bah, c'est le sommet de Kant.
C'est moins...
Ben oui, mais c'est le Kant at his best. Bon, et alors là, on comprend tout à fait pourquoi justement, à côté de la physique, à l'époque moderne, à côté de la physique est née la biologie, c'est précisément parce que, en fait, les êtres vivants, constitutivement, justement, ils ne peuvent pas être physicalisés au sens moderne qu'a pris la physique, qui est, depuis Galilée, de mathématiser. Et donc, en fait, on est obligé, à côté de la physique, de créer... la biologie. Ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, la physique aristotélicienne, ça ressemble beaucoup plus à la biologie, si vous voulez, qu'à ce que nous, aujourd'hui, on appelle la physique. Mais parce que, encore une fois, je le répète encore, la physis grecque, c'est comme la natura latine, ça a un lien avec le vivant, avec la nativité. Bon, et en fait, on voit donc très bien la situation scabreuse de la biologie moderne, qui est très très bien résumée par un passage de Jacques Monod, bon, qui est un biochimiste, brillant biochimiste, qui a été lauréat du prix Nobel en 1965, et qui est l'auteur d'un ouvrage très connu qui s'appelle « Le hasard et la nécessité », qui est paru en 1970. Donc, d'un côté, écrit Monod, je le cite, « La pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l'objectivité de la nature, c'est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance vraie toute interprétation des phénomènes donnée en termes de cause finale, c'est-à-dire de projet. Il est impossible de s'en défaire, fût-ce provisoirement, ou dans un domaine limité, sans sortir de la science elle-même. » Fin de citation. Donc vous voyez, Monod dit, si on veut faire de la science moderne, on n'a plus le droit de parler de finalité, de cause finale, tout ça. Dès qu'on évoque cela, on n'est plus dans la science. Mais au paragraphe suivant, le même Monod fait la remarque suivante. L'objectivité, cependant, oblige à reconnaître le caractère téléonomique des êtres vivants, c'est-à-dire orienté vers des fins, à admettre que dans leur structure et performance, ils réalisent et poursuivent un projet. Et vous voyez, vous avez exactement là le résumé de la situation vraiment inconfortable dans laquelle se trouve la biologie moderne, puisque en tant que science moderne, statut auquel elle prétend, elle ne devrait pas avoir le droit de se référer à des causes finales. Mais d'un autre côté, en fait, ces objets, le vivant, en fait, les êtres vivants, en fait, ce qui les caractérise, c'est précisément qu'on reconnaît en eux des causes finales. Et en fait, il y a une phrase d'un généticien anglais entre deux guerres qui s'appelle Holden, c'est une phrase qui lui est généralement attribuée et que je trouve excellente. Il dit « La téléologie est pour le biologiste comme une maîtresse sans laquelle il ne peut pas vivre, mais avec laquelle il ne veut pas être vu en public. » Bon, ça a fait référence aussi à une époque où c'était pas bien d'être vu en public avec sa maîtresse, donc... peut-être aujourd'hui. Bon. Mais bon, vous voyez, c'est une phrase que je trouve excellente, c'est qu'en fait, vous voyez, le biologiste, il n'aurait aucun sens de faire de la biologie si on ne reconnaissait pas des êtres vivants et donc en fait des finalités. Mais en même temps, s'il veut faire la science de ces êtres-là, il n'a pas le droit de parler de cause finale. Donc on est vraiment dans une drôle de situation. Alors selon Monod, le problème central de la biologie réside dans la contradiction entre le refus scientifique des causes finales et le caractère téléologique du vivant. Contradiction, dit-il, je le cite, qu'il s'agit de résoudre si elle n'est qu'apparente ou de prouver radicalement insoluble si en vérité il en est bien ainsi. Et donc fondamentalement, on se trouve devant une alternative, ou bien le vivant en tant que tel peut être appréhendé par la science moderne. Mais ça veut dire à ce moment-là qu'on peut complètement éliminer les causes finales, mais ça veut dire à ce moment-là que le vivant n'est plus vivant. Donc en fait, si la science moderne arrive à vraiment rendre compte du vivant, ça veut dire qu'en fait, le vivant n'était qu'une illusion, il n'y a plus de vivant. Ou bien le vivant en tant que tel ne peut pas être appréhendé par la science moderne, mais alors à ce moment-là, la science moderne n'est plus la science dans sa prétention à l'universalité. Et alors, en fait, en pratique, on navigue entre les deux termes de l'alternative, ce qui fait du vivant une plaie suppurante au flanc de la science moderne. En pratique, comment fait-on? Au lieu de se dire que répudier la téléologie dans l'appréhension de la nature n'est pas une bonne idée, eh bien, en fait, on a procédé à un bricolage, c'est-à-dire que faute de réussir à mécaniser le vivant jusqu'au bout, la biologie moderne s'est ingéniée à circonscrire au maximum la finalité qu'elle ne parvenait pas à éliminer en la réduisant à un motif unique, le même partout. La seule finalité qui est reconnue, que les biologistes modernes reconnaissent dans le vivant, c'est l'autoconservation. Et donc vous voyez qu'une dose de téléologie de cause finale a donc été admise au sein de la nature, mais uniquement dans une perspective survivaliste. Pour la pensée ancienne et médiévale, chaque vivant avait un être à accomplir qui transcendait sa pure et simple existence factuelle, et l'autoconservation ne valait qu'en tant qu'elle était au service de cette fin que l'être vivant était à lui-même. Pour Aristote, par exemple, l'autoconservation était la forme la plus basse du désir qu'éprouve l'être fini d'avoir part à l'éternel. Ce qui importait le plus n'était pas la vie en soi, mais la conformité de la vie à ce qu'elle devait être. Par exemple, pour un être humain, son premier devoir était d'être un être humain. Alors évidemment, pour être un être humain, il vaut mieux survivre, parce que quand on est mort, c'est difficile d'être un être humain. Mais il n'empêche que la survie, pour un être humain, n'avait de sens qu'en tant qu'il menait une vie humaine. Non pas qu'il était vivant, mais que, humain, il vivait une vie humaine. Que cheval, il menait une vie de cheval, etc. Dans les termes de saint Thomas, le bien pour tout être est qu'il atteigne sa fin, le mal est qu'il en soit détourné. Et encore une fois, vous voyez que l'autoconservation, elle existe bien, elle est bien reconnue, mais c'est une fin subordonnée à la fin première qui est d'accomplir son être. Désormais, dans la perspective moderne, l'autoconservation va être considérée pour le vivant comme la fin première et ultime, et l'ensemble des caractères déployés par la vie dans leur infinie diversité seront envisagés comme déterminés par cette seule fin et justifiés par elle. La conservation n'est plus au service d'un être à conserver, l'être et sa conservation ne font qu'un. Il y a une phrase extraordinaire du grand médecin Bichat qui résume la situation en une formule, dans ce qui est placé en tête de ses recherches physiologiques sur la vie et la mort, publiée en 1800, je cite, une phrase très célèbre, « La vie est la somme totale des fonctions qui résistent à la mort. » Fin de citation. Alors vous voyez, c'est très intéressant cette phrase, parce que Bichat parle de résistance. Et donc en fait, il y a bien de la finalité. Vous voyez, résister, l'être vivant, il résiste à la mort, donc il veut rester en vie. Il y a une finalité, il veut rester en vie. Mais d'un bout à l'autre du règne vivant, il y a une seule finalité unique, uniforme, un pur être contre la mort de l'organisme. Et en fait, nous en sommes toujours là. Je vous rappelle, j'ai cité tout à l'heure Monod, qui a reconnu les êtres vivants comme objets doués d'un projet. Mais ce projet, quel est-il ? Toujours le même. Je cite Monod, « Tout projet particulier, quel qu'il soit, n'a de sens que comme partie d'un projet plus général. Toutes les adaptations fonctionnelles des êtres vivants, comme aussi tous les artefacts façonnés par eux, accomplissent des projets particuliers qu'il est possible de considérer comme des aspects ou des fragments d'un projet primitif unique qui est la conservation et la multiplication de l'espèce. » Fin de citation. Et donc vous voyez, toute la diversité. Il n'y a pas des hommes qui veulent être des hommes, des chevaux qui veulent être des chevaux, des chiens qui veulent être des chiens, etc. Il n'y a que des organismes vivants qui sont en résistance à la mort. C'est tout. Et une telle façon de voir, en fait, est une formation de compromis entre le parti pris anti-téléologique de la science moderne et la nécessaire prise en compte du caractère téléologique des êtres vivants. Et donc, en fait, comme on n'arrive pas à éliminer complètement la téléologie, on lui laisse une place, mais on cherche à réduire au maximum cette place, et donc on la réduit, encore une fois, à ce motif unique qui est finalement, qu'est-ce que le vivant ? C'est la résistance à la mort. Et donc, en fait, on voit qu'on a une conception extrêmement pauvre de la vie, et même, pour tout dire, absurde, et Hans Jonas, ça l'a très bien relevé dans son livre qui s'est intitulé « Le phénomène de la vie », je le cite, « Le critère de la survie est inadéquat quand il s'agit d'évaluer la vie. Si le point important était le simple fait de durer, la vie n'aurait même pas dû commencer. Elle est dans son essence précaire et périssable, une aventure dans la mortalité, et sous aucune des formes qu'elle est susceptible de revêtir, elle ne saurait être aussi assurée de sa durée que peut l'être un corps inorganique. Ce n'est pas la durée comme telle, mais la durée de quoi qui est la question. » Fin de citation.
Une pierre sera un vivant plus efficace que le poisson.
Voilà, exactement. La théorie darwinienne de l'évolution ne s'en est pas moins entièrement élaborée autour des notions de lutte pour la vie, struggle for life, et de sélection des mieux adaptés, fittest, qui réussissent à survivre et à avoir une descendance, ou qui ont la descendance la plus nombreuse. Sans aucune considération, donc, de ce que telle ou telle forme vivante aurait en soi à être. Et alors, je boucle avec le début, dans une telle perspective, on voit que le transhumanisme ne saurait soulever la moindre difficulté. Puisque le bien, dans cette perspective, pour un être humain, ne consiste plus à vivre une vie humaine, mais à augmenter sa puissance et sa longévité dans la lutte générale qui fait rage entre tous les vivants pour l'appropriation de ressources rares. J'ai trouvé dans la Somme théologique de saint Thomas une phrase que je trouve magnifique. Il dit, je cite, « L'âne ne désire pas devenir cheval, car il cesserait d'être lui-même. » Vous voyez, en fait, ce qu'un âne en premier à accomplir, c'est son asinité. Il est à être un bon âne. Et alors, en fait, on lui dit, bah oui, mais si tu devenais cheval, tu courrais plus vite. Et par exemple, tu pourrais peut-être échapper mieux à tes prédateurs, etc. Mais l'âne, il dit, mais non, je ne vais pas devenir un cheval pour courir plus vite, puisque je ne serai plus un âne. Or, moi, ma finalité, la finalité propre que je porte, c'est d'être un bon âne, d'accomplir mon asinité. Vous voyez, mais ça c'est pour saint Thomas dit ça pour l'âne, et c'est vrai pour n'importe quel être vivant, et c'est vrai évidemment pour l'être humain. C'est-à-dire qu'un être humain, justement, comme l'âne doit rester un âne, eh bien l'être humain doit rester un être humain. Et donc en fait, l'âne qui refuserait de devenir cheval pour courir plus vite, on pourrait dire que l'être humain, il doit refuser également de se mettre des implants, de devenir un transhumain, parce que sa première mission sur Terre, c'est d'accomplir son humanité. Et vous voyez que selon les nouvelles façons de voir, l'âne n'a pas à être un âne, il a à maximiser sa survie et sa descendance, et si devenir cheval l'y aide, il n'y a aucun problème. Et être soi-même importe peu, ce qui compte est de tirer son épingle du jeu dans la bagarre générale. Aussi, dès que le développement technologique atteint un stade qui permet de modifier un être humain de telle sorte qu'on dise qu'il va devenir plus efficient dans cette lutte, il apparaît dans le sens de la vie que certains êtres recourent à de tels moyens pour s'imposer, et malheur aux vaincus. Et donc là, vous voyez que quand on déroule ce fil-là, on s'aperçoit que le transhumanisme, encore une fois, il nous arrive dessus à cause d'un certain stade du développement technologique, mais que, en fait, Il s'encastre en fait dans un cadre de pensée qui était tout à fait prêt à l'accueillir. Alors en fait, pour terminer, je voudrais évoquer très brièvement une solution de fortune qu'imaginent certains pour l'argument à opposer au transhumanisme. C'est finalement d'abandonner la nature à cette vision très réductrice qu'en a la biologie moderne, qui ramène tout à des stratégies de survie, et puis d'essayer de dire oui, mais bon, l'homme, c'est pas pareil, et on va faire une sorte de cordon sanitaire autour de l'être humain. On abandonne la nature à la simple lutte pour la vie, et puis quand même l'être humain, non, c'est comme, il y a quand même quelque chose, c'est pas pareil, et on va sauver l'être humain. Donc ce qui est vrai dans le reste de la nature ne vaudrait pas pour l'être humain. En fait, c'est une stratégie qui est vouée totalement à l'échec, et je vais essayer très brièvement d'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, l'être humain a besoin, pour se comprendre, de se mirer dans le non-humain. Alors, qu'est-ce qui va être le non-humain par rapport auquel l'être humain va pouvoir percevoir sa situation propre? Ça va être la divinité, d'un côté, mais aussi, d'un autre côté, les bêtes et les choses. On imagine volontiers aujourd'hui que les métaphores relèvent d'une façon sophistiquée de s'exprimer par rapport à un langage primitif qui aurait été dépourvu de métaphores. C'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est l'esprit savant qui cherche à éliminer les images sans jamais du reste y parvenir tout à fait. Et Nietzsche, là-dessus, a fait une remarque très profonde, je le cite, « Le concept, sec et manipulable comme un dé aux faces bien parallèles et perpendiculaires, n'est pourtant rien d'autre qu'un résidu de métaphores. » En fait, les êtres humains commencent à parler par des métaphores, et c'est seulement tardivement que à force d'épurer les métaphores, on arrive à ce qu'on appelle la pensée conceptuelle. Mais il n'y a pas au départ une pensée qui aurait ensuite trouvé dans l'image une façon de s'exprimer. La pensée est à l'origine solidaire de l'image. Et si les plus anciennes œuvres littéraires de l'Occident, l'Iliade et l'Odyssée, fourmillent de métaphores, ce n'est pas parce que celles-ci sont poétiques, mais parce que les Grecs de ce temps n'auraient absolument pas su raconter autrement une histoire. Je donne un exemple. Le récit homérique, à un moment donné, doit évoquer la résistance qu'opposent les guerriers grecs aux assauts troyens. C'est un moment, c'est dans le chant 15 de l'Iliade, où ça va très mal pour les Grecs, parce que vous savez, il y a Achille qui boude sous sa tente, et sa mère Thétis a obtenu de Zeus que tant qu'Achille ne combattrait pas, ça irait mal pour les Grecs, pour qu'ils soient obligés, en fait, de voir leur salut à Achille. Bon, et donc, en fait, les Troyens ont l'avantage. Il y a Hector qui mène les armées troyennes contre les Grecs et qui ont le plus grand mal à contenir ces assauts. Alors, comment est-ce décrit par Homère dans l'Iliade? Eh bien, l'armée grecque est comparée à un rocher fouetté par le vent marin et les vagues. Je cite l'Iliade. « Tous demeurent fermement groupés comme un rempart, comme un roc abrupt et puissant au bord de la mer blanche d'écume où il tient bon contre le vif assaut des vents hurlants et des lames énormes qui déferlent sur lui. » Fin de citation. Alors vous voyez que l'esprit moderne n'a aucun mal à débusquer l'anthropomorphisme qui est sous-jacent à une telle analogie. Il faut que l'homme se projette dans le rocher et les vagues pour ressentir l'immobilité du rocher et le mouvement des vagues comme une résistance et un assaut. Vous voyez, le rocher ne résiste pas aux vagues qui l'attaquent. Non, si vous êtes un physicien, vous voyez des forces à l'œuvre, peut-être, mais enfin, il n'y a pas un être qui serait le rocher qui résisterait à un autre être qui serait les vagues. Et en fait, vous voyez bien que là, en fait, voir le rocher comme opposant une résistance aux vagues qui l'attaquent, c'est qu'en fait, l'être humain se projette dans les rochers.
C'est la seule manière de le percevoir, en fait.
Se projette dans les rochers, et à ce moment-là, se projetant dans les rochers, il sent les vagues qui viennent battre contre son corps, et il oppose la résistance de son corps aux vagues. Alors donc, évidemment, pour décrire, encore une fois, voir quand la mer arrive sur un rocher, voir ça comme le rocher qui résiste à la marée, en fait, il y a de l'anthropomorphisme, sans doute. Mais en même temps, comment les êtres humains pourraient-ils s'appréhender eux-mêmes si rien dans le monde ne leur était apparenté? Et là, je me réfère à un ouvrage de Bruno Snell, un livre très intéressant qui s'appelle « La découverte de l'esprit, la genèse de la pensée européenne chez les Grecs ». Donc, en fait, Bruno Snell, parlant des métaphores homériques, il dit ceci, et plus particulièrement de la métaphore que je viens de citer. Voilà ce qu'il dit. Il dit « L'homme ne prend conscience de son propre comportement » qu'en interprétant le rocher en fonction de l'expérience humaine, ce qui lui permet de trouver l'expression adéquate pour décrire celle-ci. Pour comprendre, alors c'est vraiment le point central, pour comprendre les métaphores, il est fondamental de se souvenir que l'homme ne se perçoit et ne se comprend lui-même qu'à travers cet écho. Et donc vous voyez ce qui s'ensuit. Il s'ensuit que plus la conception de la nature est appauvrie, plus la conception que l'homme se fait de lui-même l'est également. Je ferai remarquer d'ailleurs que là, l'homme se projetait même pas dans du vivant, il se projetait même dans l'inanimé, puisque là c'était le rocher contre les vagues. Mais vous voyez que pour décrire sa propre expérience, l'homme a absolument besoin d'avoir des choses qui reflète sa propre expérience. Il faut que préalablement il soit capable de se projeter dans les choses pour pouvoir se comprendre lui-même. Mais à partir du moment où vous prétendez avoir une science qui est libérée de tout anthropomorphisme et qui élimine totalement les causes finales, à ce moment-là, vous avez une nature justement, dans laquelle l'homme ne peut absolument plus se projeter. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, bon, ben d'accord, mais l'homme est à une absolue singularité dans une nature qui est complètement objectivée. Mais en fait, cette absolue singularité, elle est destinée finalement à se résorber dans la matière parce qu'elle n'a plus de répondant, elle n'a plus de répondant dans le monde. C'est-à-dire que si l'homme ne peut se comprendre qu'en se mirant dans les choses, plus il aura désincarné les choses, plus lui-même se désincarnera. Et c'est pour ça que c'est une voie sans issue que de croire qu'on puisse sauver l'homme à l'intérieur d'un monde qui aurait été complètement aplati. Et là, en fait, on ne peut que penser au « tout est lié », qui est le véritable leitmotiv de l'encyclique Laudato Si, qui parle du rapport de l'homme à la nature, le rapport à lui-même et du rapport à Dieu. Et en fait, on ne peut pas sauver un rapport, si vous voulez, si tous les rapports doivent être sauvés en même temps. Vraiment, un dernier tout petit mot sur le prétendu matérialisme contemporain, qui est en fait un avatar du gnosticisme. On a qualifié de gnostique un certain nombre d'hérésies chrétiennes qui ont fleuri au IIe et IIIe siècle, et qui, dans leur diversité, avaient pour point commun un dualisme radical qui les amenait à distinguer d'un côté la puissance démiurgique de l'Ancien Testament et de l'autre côté le Dieu rédempteur qui s'était incarné en Jésus-Christ. Les gnostiques condamnaient le monde corporel et concevaient le salut comme un affranchissement complet de l'esprit vis-à-vis de sa prison charnelle. Et comment pouvait-il s'affranchir de sa prison charnelle? Par une certaine connaissance, gnosis en grec, d'où le qualificatif de gnostique pour qualifier ces mouvements. Alors saint Irénée, à la suite de saint Paul, s'est attaché à distinguer la vraie gnose, alliance de la foi et de la raison pour connaître les choses divines, de ce qu'il qualifiait de gnose au non-menteur, doctrine opposant l'esprit à la création et plaçant le salut dans une excarnation, c'est-à-dire le fait que l'esprit arriverait à se libérer complètement de son enveloppe charnelle, qui est considérée comme une sorte de cadavre, de sarcophage dans lequel il serait prisonnier. Pour le christianisme orthodoxe, il n'y a pas de l'Ancien au Nouveau Testament opposition mais accomplissement, et parce que selon la Genèse, l'homme n'est pas un esprit prisonnier de la glaise, mais de la glaise à laquelle a été insufflée une haleine de vie, le salut passe non pas par une annulation de la chair, mais par sa résurrection. Et il n'y aurait pas de sens à considérer l'esprit présent en chaque être humain, indépendamment d'un corps dont il est le principe d'animation. Et c'est d'ailleurs un problème que j'ai avec le mot incarnation, enfin tel qu'il est souvent utilisé, il se trouve souvent utilisé. À mon avis, le mot incarnation, il est vraiment bien utilisé que dans le cas du Christ. Dans le cas du Christ, en fait d'ailleurs, il y a certains qui parlent d'humanation aussi de Dieu, il y a vraiment incarnation de Dieu dans la personne du Christ. Dire que nous-mêmes nous sommes incarnés, c'est supposer d'une certaine manière que c'est un esprit qui existait indépendamment de la chair et qui a été placé dans la chair. Alors qu'on peut dire qu'en fait, un esprit humain, quelle est sa raison d'être? C'est précisément d'habiter un corps humain. Et donc, en fait, si vous voulez, l'esprit n'existe pas indépendamment du corps. Un esprit humain n'existe pas en dehors d'un corps humain, dans la mesure où précisément un esprit humain, c'est ce qui anime un corps humain. Alors vous allez dire, oui, mais quand on meurt, le corps disparaît et l'esprit demeure. Mais ce que dit saint Thomas, c'est que l'esprit demeure provisoirement sans corps, mais il est dans un état imparfait, parce que l'état parfait d'un esprit humain, c'est d'animer un corps humain. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, après le jugement dernier, il doit y avoir absolument résurrection des corps pour que, à nouveau, l'esprit humain soit uni à un corps humain. Et c'est en tant que tel qu'il s'accomplit en tant qu'esprit humain. Si vous regardez dans l'enfer de Dante, par exemple, si dans un des cercles de l'enfer, il y a les suicidés. Et en fait, ce qu'il y a de terrible pour les suicidés, c'est que l'esprit humain en fait, va se retrouver placé dans un arbre. Et vous voyez, c'est ça le supplice des suicidés dans l'enfer de Dante. Vous voyez, c'est pas de rôtir, d'être soumis à des supplices. C'est le fait que pour l'éternité, en fait, l'esprit humain qui avait pour raison d'être, d'animer un corps humain, se trouve là à l'intérieur d'un arbre. Mais l'état accompli d'un esprit humain, c'est d'être à l'intérieur. C'est d'animer, pas de, vous voyez, je suis prisonnier encore, c'est pas d'être, c'est d'animer un corps humain. C'est pour ça que le mot d'incarnation, on peut l'utiliser, mais il faut être prudent, parce qu'on glisse vite avec l'idée que, en fait, il y a un corps sans âme, et puis il y a une âme qu'on va aller mettre à l'intérieur. Et c'est vraiment ça qui va vers le gnosticisme, où justement, à ce moment-là, on peut complètement séparer l'âme du corps, et on va même considérer, alors que saint Thomas dit que l'état parfait d'une âme humaine, c'est d'animer un corps humain, à ce moment-là, pour les gnostiques, au contraire, l'état parfait d'une âme, c'est d'être complètement séparé de son corps. Alors, les dantans gnostiques étaient quand même très fortes, ont quand même été gnosticistes, si vous voulez, ont été vaincus. Mais l'inspiration gnostique, qui a été un temps tenue en respect, a trouvé dans la technique moderne un moyen de s'exprimer sous un mode nouveau. Le gnosticisme ancien était religieux. Il entendait, par la connaissance du vrai Dieu, libérer l'esprit de toute attache au monde matériel abandonné aux forces mauvaises. Le gnosticisme moderne, quant à lui, entend par la technique soumettre entièrement le monde à l'esprit. Et vous voyez, c'est ça qui est l'erreur quand on dit que notre époque est matérialiste. En fait, elle n'est pas du tout matérialiste. Parce qu'en fait, elle ne respecte absolument pas la matière. Ce qu'elle entend faire, c'est soumettre entièrement la matière à la volonté. Et donc, en fait, il n'y a plus une alliance entre l'esprit et la matière. Il y a un esprit qui s'impose complètement à la matière, qui est une autre manière, si vous voulez, une autre modalité du gnosticisme, qui est, le gnosticisme ancien, c'était la séparation de l'esprit de la matière, et là, en fait, ça revient un peu au même, dans la mesure où, en fait, certes, il y a la matière, mais elle est là pour entièrement obéir à l'esprit. La dynamique de transformation du monde par la technique moderne ne peut être vraiment saisie si l'on ignore cette dimension spirituelle. Le gnosticisme moderne, c'est la séparation de l'esprit et de la matière qui devient, au gré des moyens d'action conférés par la technique moderne, impérialisme de la volonté, impatience devant tout donner, désir illimité de maîtrise et de contrôle. C'est encore et toujours la promesse mensongère du serpent, mais alors là, ça nous réengagerait dans une exégèse des premiers chapitres de la Genèse, et donc je vais m'arrêter ici. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup.